RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
On va revenir maintenant sur l'un des gros titres de ce mercredi, la dégradation de la note de la Chine. Note de crédit dont la perspective est jugée négative par l'agence Fitch. Nous sommes en ligne pour en parler avec Philippe Aguignier, chercheur associé à l'Institut Montaigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi professeur d'économie chinoise à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, l'INALCO. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire cette note sur le crédit souverain de la Chine ?
Alors, vous savez qu'il y a trois agences de rating importantes au monde. Il y a Fitch, Moody's et Standard & Poor's, et qui notent la qualité du crédit des pays, mais aussi des emprunteurs de manière générale. Alors, pour remettre les choses en perspective, l'annonce faite par Fitch ce matin, ça n'est pas la note de crédit de la Chine qui a été dégradée, pas encore, c'est la perspective qui entoure cette note. Donc, ce que Fitch dit aujourd'hui, c'est attention, on a noté des évolutions qui sont défavorables, et si ça se confirme, à ce moment-là, on dégradera la note. Mais ce n'est pas encore la note elle-même qui est dégradée.
L'agence Fitch dit qu'elle s'inquiète notamment de l'augmentation de la dette qui a plus que doublé depuis 2018. Comment en est-on arrivé là ?
Alors, il faut voir la dette chinoise, la dette souveraine chinoise, hein, donc de l'État chinois, reste quand même relativement modeste quand on la compare à celle d'autres pays. Ce qui pose problème, c'est effectivement l'évolution, et comme vous l'avez souligné, ça a un petit peu moins que doublé, mais cette dette augmente. Alors, on arrive à cela parce que, d'abord, il y a eu, comme partout au monde, la crise de la Covid est passée par là, donc il y a eu une augmentation des dépenses publiques, très clairement, mais il y a aussi en Chine, il y a d'autres facteurs, il y a un ralentissement de l'activité économique qui va beaucoup plus loin que ce qui était dû à la Covid. Il y a une crise immobilière qui ampute les revenus de l'État. Et donc tout ça fait qu'il y a un déficit et que le déficit de l'État, à la fin, ça se traduit par une augmentation de la dette. Et donc effectivement, la dette souveraine, j'ajoute la dette souveraine officielle, parce que je vais peut-être revenir là-dessus. S'il y a une autre.
Est-ce qu'on peut faire confiance à ce. Est-ce que, justement, qu'est-ce qu'on peut estimer de ces chiffres quand on parle de la dette chinoise ?
Alors, on sait très bien qu'il y a autre chose que simplement la dette officielle. Il y a, par exemple, une partie de la dette. Bon, il y a le gouvernement central. Bon, ça, c'est facile. C'est de la dette souveraine. Après, vous avez la dette des gouvernements locaux, les provinces, les grandes municipalités. Il y a une partie de cette dette qui est officiellement garantie par l'État central. Donc ça, c'est apparenté à de la dette souveraine. C'est facile et c'est compté dans le chiffre. Mais il y a aussi une partie de la dette, de cette dette locale, qui n'est pas officiellement garantie par les autorités centrales. Donc elle n'est pas incluse dans les chiffres. Mais on sait bien que c'est très peu probable que le gouvernement central laisse une province chinoise faire défaut. Donc, en fait, le gouvernement central assumera cette dette si jamais il y a un problème. Donc, il faut rajouter cette partie-là.
Ça, c'est quelque chose qui peut peser encore plus sur.
C'est quelque chose qui peut peser encore plus, mais ceci dit, j'insiste sur le fait que c'est connu, hein, donc, y compris de Fitch, donc, qui prend déjà ça en compte dans son appréciation. Mais ça vient gonfler le chiffre.
Alors,
et puis, vous avez encore une couche de plus, qui est de la dette dont le statut est encore plus ambigu, comme par exemple certaines entreprises d'État, parce que là aussi, on peut se poser la question, est-ce que le gouvernement central viendra à leur secours ou pas ? Et puis, il y a une partie de la dette où là, elle est hors budget, elle est pas officielle, et là, on a des estimations, mais pas de chiffres sûrs. Donc, le montant réel de la dette, il est supérieur à ce qui apparaît, c'est très clair. On ne sait pas de combien il est, mais enfin on a quand même une idée des ordres de grandeur. On sait que ça reste gérable à court terme. Il n'y a pas de problème de dette chinoise à court terme. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est plutôt l'évolution. Et bon, le monde.
Et c'est cette tendance-là qui est jugée négative. Vous nous avez parlé des entreprises. Les autorités chinoises ont dit qu'elles allaient faire plus pour favoriser le marché immobilier, qui est un pilier de l'économie, mais dans ce secteur, les faillites s'enchaînent. Est-ce que le gouvernement a vraiment des leviers pour inverser la tendance ?
Alors, le gouvernement a encore des marges de manœuvre. Il peut encore investir, décréter des plans de relance, etc. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'ailleurs de plan de relance massif dans l'immobilier. La priorité pour régler la crise immobilière, c'est de trouver des financements pour finir les appartements qui ont été vendus et payés par leurs acheteurs, mais pas encore livrés. Mais il n'y a pas de plan de sauvetage massif pour les promoteurs qui, comme vous l'avez dit, font faillite les uns après les autres.
Donc il y a encore une toute petite marge de manœuvre. Il nous reste assez peu de temps. Je voulais quand même vous demander quelles pouvaient être les conséquences de ces difficultés chinoises dans le reste du monde.
Alors, à court terme, zéro. Aucune. Et vis-à-vis du reste du monde, la Chine, la dette chinoise, elle est portée par des investisseurs, par des prêteurs domestiques. La Chine ne s'endette pas auprès du reste du monde. Hein. Le montant net de la dette chinoise, il est très, très, très faible. Donc, à très court terme, il n'y a pas de danger pour le reste du monde. Maintenant, si l'économie chinoise devait rentrer dans des périodes de turbulences qui durent et qui deviennent plus fortes, bien entendu, ça aurait une répercussion très forte sur l'économie mondiale. D'abord parce que la demande que l'économie chinoise adresse au reste du monde pourrait décroître, et donc ça, c'est pas favorable. Mais on voit aussi qu'il y a une tentation du côté de la Chine de répondre à ces difficultés intérieures en poussant les exportations. Et ça, c'est le fameux problème dont on parle beaucoup en ce moment, des surcapacités. Donc la Chine investit beaucoup dans le développement de son industrie, est très compétitive dans certains domaines, et donc le résultat, c'est que comme parfois la demande domestique ne suffit pas à absorber la capacité domestique, tout ça se traduit dans les flux d'exportation.
Le marché mondial.
Voilà,
je vous remercie beaucoup Philippe Aguigné, chercheur associé à l'Institut Montaigne et professeur d'économie chinoise à l'INALCO.